Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actualité internationale de la semaine qui nous emmènera à New York, première conférence de presse d'un Donald Trump énervé et qui sera dans une semaine le président des États-Unis. À Pékin, qui voit rouge justement dans la perspective de cette arrivée à la Maison-Blanche, Mexico, comment pourra-t-il résister à la pression Trump? Et puis Téhéran, pourquoi les modérés pleurent-ils la mort de l'ancien président Rafsanjani? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour,
Frédéric Ancel, professeur de géopolitique à Paris Business School, à Sciences Po Paris. Et on le rappelle, auteur avec Yves Lacoste de la géopolitique de la Nation France. Bonjour Pierre Servant.
Bonjour Fabrice.
Pierre Servant, spécialiste des questions de défense, qui a fait un tabac avec son premier roman, Le Testament aulique, justement, qui se passe à la fois pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et puis aujourd'hui, donc, ça m'a rappelé un certain Pierre Servant dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, c'est limite autobiographique. Alors, l'actualité de la semaine, je vous le disais, dans une semaine, Donald Trump, qui sera donc bel et bien installé à la Maison-Blanche, passation de pouvoir le 20 janvier, voilà, comme la Constitution le prévoit, vendredi prochain, donc, à midi, là aussi, tout est écrit par la Constitution, il ne faut pas qu'il y ait de vacances du pouvoir. Et en attendant, eh bien, le futur président continue de tweeter, plus ou moins brutalement, et il nous surprend toujours. Tiens, par exemple, pendant sa première conférence de presse, en tant que président élu, qu'il organisait mercredi, Trump, il fait le bien.
Créer de l'emploi, je l'ai dit, je vais être le plus grand producteur d'emplois que le bon Dieu ait jamais créé. Et je suis très sérieux, il faut d'autres choses, il faut que nous ayons bien sûr un petit peu de chance, mais je crois que nous allons faire un excellent travail. Je suis très fier de ce que nous avons fait.
Ouais, alors c'est vrai qu'il n'a pas ménagé sa peine pour inciter, pour tenser, pour menacer les grands groupes, pour qu'ils investissent aux États-Unis, pour qu'ils ne délocalisent pas. Un Donald Trump aussi très très énervé après la révélation le matin même de ce rapport selon lequel la Russie détiendrait des informations compromettantes sur lui, au point que Trump serait quelque part dans les mains de Moscou. Foutaise, éructait le futur président s'en prenant aux journalistes de CNN, aux services du renseignement. Pierre, Frédéric, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Est-ce que franchement, il est rentré dans le costume du président de la première puissance mondiale? Allez, Frédéric Ancel.
La réponse est non. Ou plus exactement, il est rentré dans le costume que lui considère comme étant le juste et le bon. Or, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique depuis la fin du 18e, depuis l'indépendance des États-Unis, qu'un candidat à l'élection avait été à la fois aussi outrancier d'une part et aussi contradictoire d'autre part. Et surtout, c'est la première fois qu'une fois élu, il continue. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème parce que, et on va le voir sans doute tout à l'heure, avec des États extrêmement puissants, je pense évidemment à la Chine ou à la Russie, mais le fait qu'il évoque Dieu, ça c'est tout à fait banal, mais qu'il menace de façon outrancière sans avoir fondamentalement les capacités de le faire. Car il faut toujours rappeler qu'un président des États-Unis a moins de pouvoir et de prérogatives aux États-Unis que n'en a en France
président de la Ve République,
bien sûr. Absolument. Ça, c'est un point très important. Et puis surtout, ces rodomontades et ces coups de menton et ces coups de gueule contre une partie des médias, on n'est plus en campagne électorale.
Ah non, c'est fini.
Il faut absolument qu'il assume non plus seulement la fonction tribunicienne qu'il a très bien assumée, ça va, c'est bon, on a compris, il l'a emporté, mais qu'il assume maintenant la fonction présidentielle qui, en principe, nécessite un niveau un peu supérieur.
C'est vrai qu'il n'a pas cessé de régler ses comptes, de se poser en victime, comparant même les États-Unis à l'Allemagne nazie. Ouais, super, très mauvais goût, bien sûr. On l'a vu méprisant, roublard. Il s'est attaqué à un journaliste de CNN, il a tensé la BBC. Vous aviez déjà vu une telle conférence de presse, Pierre Servant?
Non, effectivement, c'est assez surprenant. Alors, après son élection, il y a eu une grande polémique, une grande attaque contre les médias, les gens qui réfléchissent sur le thème, bande d'abrutis, il s'est fait élire, vous avez rien compris, c'est un grand personnage. Je crois que non, l'erreur, c'est de ne pas avoir été capable de voir que son discours prenait, qu'il y avait véritablement une Amérique blanche, notamment, avec un sentiment de déclassement, qui entendait cela, tout ça dans un concert international où tout ce qui est nostalgique, nationaliste, imprécation fonctionne bien. Donc l'erreur globale, ça a été de ne pas avoir vu ça, c'est la sortie de ce personnage. Mais l'analyse du personnage reste pertinente. C'est un imprécateur, c'est un personnage infantile et c'est un personnage impulsif. Le côté tweet où effectivement il gère les relations internationales à coup de tweet, extrêmement préoccupant. Et juste pour ajouter un dernier mot, il fait exactement le contraire de ce que le général Sun Tzu, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, général chinois, l'art de la guerre, qui est sur la table de son homologue chinois depuis très longtemps, préconise, et il dit toujours que les chefs impulsifs, colériques, ont déjà perdu. Donc, s'ils ne se modèrent pas, et il est arrivé à un âge, plus de 70 ans, où c'est un peu compliqué de changer de style, et en plus, ce côté infantile, enfin, Sun Tzu, justement, dit le chef a perdu quand il n'a pas de distance entre lui et les événements. Le problème de Trump, sa conférence de presse était surréaliste, c'est qu'il n'a aucun espace entre lui et ce qui se passe. Donc, je veux dire une chose, juste pour terminer, qui est très risquée, je me demande, bon, il va certainement commencer son mandat, je ne sais pas s'il le terminera.
Ah, carrément. Parce que s'il pourrait arriver une destitution ?
Oui, parce que je veux dire, s'il continue sur ce train-là, il va y arriver des catastrophes. Sur le plan de la gestion de son patrimoine, il est dans les clous, mais il commet une erreur par rapport à tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs en ne confiant pas ses affaires à ce qu'on appelle un blind trust.
Il a confié à ses fils. Et le dimanche, ils vont en parler.
Il a déjà commencé à faire des déclarations en disant non, je ne vais pas m'en occuper, mais s'ils perdent de l'argent, je les virerai, etc. Ouais. Donc, je veux dire, il a un nombre de faiblesses. Je ne parle pas du rapport, d'ailleurs, du rapport qui est sorti.
Je n'ai pas d'éléments, je ne sais pas vérifier.
Je suis très prudent là-dessus. Mais je veux dire, ce personnage est absolument un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Moscou qui a aussi nié les informations selon lesquelles Trump était lié à la Russie, parce qu'une vidéo très X circulait, le montrant avec des prostituées dans un hôtel russe en 2013 au moment de l'élection de Miss Univers qu'il organisait. Le Kremlin ne s'occupe pas de la fabrication de compromats. Juste Pierre Servant, c'est une vieille technique soviétique russe de filmer justement pour compromettre des opposants.
Oui, tout à fait. Enfin, disons, du bloc de l'Est, pas seulement les soviétiques. La Roumanie, la Bulgarie, etc. Ces systèmes-là très classiques avec des espions, ça, c'est un vieux procédé, mais ça a toujours fonctionné. Il y en a un autre qui a concerné notamment en France Charles Hernu, pas sur le plan sexuel, mais vous savez qu'il y a eu des révélations en 1995 sur le fait que Charles Hernu, avant d'être ministre, etc., avait été un agent...
Des révélations, enfin des rumeurs, exactement.
Son nom apparaissait effectivement à un ensemble de documents. Alors en fait, il est tout à fait possible qu'il soit arrivé à Charles Hernu ce qu'un ancien directeur de la CIA par intérim reproche à Trump, c'est-à-dire d'avoir été éventuellement un agent sans le savoir bloc de l'Est dans la façon de tirer les vers du nez. Entre parenthèses, une petite information, c'est que quand l'information sur Charles Hernu est sortie, c'était 95, Charles Millon, ministère de la Défense, le ministre de la Défense de l'époque a fait vérifier toutes les nominations de généraux à l'époque d'Hernu pour vérifier qu'il n'y avait pas dans ces nominations des choses bizarres. Mmh. Donc Charles Hernu, c'était pas un agent ni un espion, mais dans les contacts avec les agents de l'Est, ils avaient une façon d'instrumentaliser leurs différents contacts, éventuellement de rendre des services qui sont tout à fait dans les techniques des agents des pays de l'Est.
En tout cas, Trump a dit attention dans les chambres d'hôtel, vous allez vite vous retrouver à l'antenne. C'est le conseil qu'il donnait à tous. Alors on ne sait pas d'où viennent les accusations présentes dans ce rapport. Frédéric, Donald Trump, il s'en est violemment pris aux médias, on le disait, et aux services de renseignement américains pour avoir laissé passer le faux dossier russe, dit-il. Bon, en même temps, il a quand même reconnu que la Russie était à l'origine du piratage lors de l'élection au détriment donc du Parti démocrate. C'est pas la première fois qu'il s'en prend aux services de renseignement américains, à toutes les agences du renseignement. N'empêche qu'il va falloir qu'il fasse avec à partir de la semaine prochaine.
Non seulement il va falloir qu'il fasse avec, et ça c'est absolument incontournable, mais je rappellerai simplement qu'au début des années 50, McCarthy est tombé lorsqu'il a commencé à attaquer l'armée et les services de renseignement. Jusque-là, la vague McCarthyste était pratiquement inarrêtable en quelque sorte. Lorsqu'il s'est attaqué au renseignement et à l'armée, sacro-sainte aux États-Unis, notamment au pays à peu près perpétuellement en guerre depuis 1945 et auparavant, ça pose évidemment problème, y compris à mon avis pour des gens qui ont voté pour lui, dont beaucoup sont de fiefs nationalistes. Bon. Donc on a là quelque chose qui rejoint ce que disait Pierre il y a un instant, c'est infantile, et c'est même extraordinairement dangereux, parce que si demain, les services de renseignement décident de ne plus jouer le jeu, en quelque sorte, et de plus faire leur boulot, parce qu'ils vont se faire engueuler, pardonnez-moi l'expression, par le président, ou parce qu'ils risquent de se faire virer, ou de ne pas être crus dans leur travail, ils agiront plus.
Alors que la menace, elle est générale. Il y a l'État islamique, il y a la Corée du Nord, il y a la Russie, peut-être, aussi, la Chine, bien sûr.
Et alors là, comme je le dis souvent, Poutine sera fort de la faiblesse des Américains, et alors, d'autant plus si les services de renseignement américains ne vont pas jusqu'au bout de leur capacité.
Ça va être quoi l'état des relations avec Moscou quand on écoute Trump, quand on écoute aussi Rex Tillerson, qui va être le futur secrétaire d'État, qui est auditionné cette semaine donc par le Sénat, qui prône la fermeté avec la Russie. Les États-Unis ne seront probablement jamais amis avec la Russie. Pierre Servent, ça va être quoi la suite ?
Très surprenant, 9 heures d'audition, enfin c'est très classique chez les Américains, et des propos très fermes vis-à-vis de Moscou, ceux que vous avez cités, ouais. mais d'autres encore. Donc voilà, il y a d'un côté Trump qui a une espèce de fascination pour un alter ego qui perçoit mal dominant dans le concert international, très carré dans ses bottes. Il y a la même osmose dans le langage. Poutine voulait aller buter les Tchétchènes dans les chiottes. Trump pourra dire ça demain par rapport à Raqqa ou d'autres choses. Donc vous avez cette symétrie. Et puis sur le plan des relations internationales, des intérêts, il y a deux logiques, Moscou d'un côté et les États-Unis de l'autre, même si Trump veut tout jouer sur le développement économique, une espèce de désisolationnisme, la première puissance américaine ne peut pas, et le nouveau équivalent de ministre des Affaires étrangères américain l'a tout à fait dit. Donc ça illustre ce démarrage en cacophonie.
Alors qu'il n'y est même pas encore, c'est dans une semaine.
Vous avez raison, Pierre. Plus un autre élément qui avait été évoqué sur votre plateau par un de vos invités, à savoir qu'un certain nombre de membres de l'équipe gouvernementale de Trump arrivent dans des postes ministériels dont ils ont toujours dit qu'il fallait détruire ce poste ministériel, que ça soit l'éducation nationale, l'environnement, etc. Donc voilà, il va falloir que tout ça se réaligne quand même un tout petit peu.
Frédéric, le ministre, la très grande fermeté exprimée par le nouveau ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État en l'occurrence, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a là le sentiment de quelque chose qui relève des rapports de force traditionnels. C'est-à-dire, on peut très bien discuter ensemble, mais vous ne nous prenez pas pour des imbéciles. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a eu le sentiment, pourquoi ? Parce que Trump nous a donné ce sentiment, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qu'il était ami, mais ami au sens effectivement des voyous dans une cour de récréation, copains, complices, un peu virilistes avec Poutine. En réalité, une fois élu, il faut passer à l'éthique de responsabilité, à autre chose. Et je pense que Poutine est quelqu'un qui comprend parfaitement les rapports de force, qui comprend même peut-être que ça. Et si l'administration Trump décide d'entretenir un véritable dialogue stratégique avec Poutine, peut-être plus efficace, plus fort que celui qui a eu lieu sous Obama, ce sera plutôt une bonne nouvelle, car ce sera l'illustration de l'acceptation d'une véritable posture politique.
Vous avez raison. Alors justement, et quand il sera élu, apparemment il veut aller vite, on va reparler du mur mexicain dans un instant. L'Obamacare, il veut l'abroger, le remplacer dans les meilleurs délais. Il parlait d'un désastre, cet Obamacare. Il veut brader comme ça l'héritage Obama, c'est sa priorité, Pierre Servent. On va parler d'Obama dans un instant.
Là, on est dans les symboles, c'est-à-dire piétiner, parce que derrière Hillary Clinton, c'est Obama qui a été battu. Donc on piétine celui qui a été devancé. Et puis en même temps, il explique qu'il y aura un remplacement simultané, enfin en même temps d'Obamacare, parce qu'il y a, je sais pas, 20 millions ou 25 millions d'Américains qui
vont rester un peu sur le trottoir.
C'est là où, encore une fois, entre les proclamations et la réalisation, ça va être un peu compliqué. Et le difficile dans ce type de psychologie qui est un peu celui de Poutine, c'est quand, comme vous ne pouvez pas perdre la face, vous êtes en fuite en avant en permanence, en rajoutant des éléments, plutôt que de reconnaître que vous avez été devancé. Un tout dernier point, si vous le permettez, par rapport, on parlait du face-à-face États-Unis-Russie, il faut bien voir que du côté de la Russie, il y a une tentative déjà depuis un an et demi, qui a eu des difficultés, de triumvirat Chine-Russie-Turquie, Pour chacun des pays ayant des agendas particuliers, les Turcs déçus de l'Europe, la Russie déçue de l'Europe, les Chinois essayant de se positionner.
Se cherchant, bien sûr.
Donc, ces trois pays essayant de mettre en commun notamment toutes les ressources énergétiques entre elles et constituer un clan idéologique, chacun étant engagé dans une restauration particulière, maoïste, ottomane, russe impériale, face aux Américains, estimant que les États-Unis, il n'y avait plus de pilote à l'époque d'Obama dans l'appareil, mais que là, il y en a un, mais qui est tellement tonitruant qu'il risque de faire péter la machine.
Alors Obama, justement, un petit peu éclipsé par cette conférence de presse, et quelques heures plus tôt, juste avant cette conférence de presse, depuis son fief de Chicago, il faisait ses adieux avec Michelle Obama et l'une de ses filles, Malia.
Oui, nous pouvons le faire. Oui, nous l'avons fait. Oui, nous pouvons le faire.
Michelle, Michel, ces 25 dernières années, tu n'as pas été seulement ma femme et la mère de mes enfants, tu as été aussi ma meilleure amie.
Yes, we did aussi, voilà, c'est pour le pendant de Yes We Can, hein, discours qui mettait en scène beaucoup d'émotions, plus ou moins feintes, je ne sais pas. Discours bilan, regret, la question raciale non résolue, discours fierté, yes we did, je vous le disais. Puis discours vigilance pour que la démocratie, elle reste vive, hein, défendre la démocratie, il l'a dit à plusieurs reprises. Des adieux au goût d'inachevé, tiens, Frédéric Ancel.
Au goût d'inachevé, oui, oui et non, parce que dans les enquêtes d'opinion, Obama reste très élevé. Ça, c'est assez.
Qu'est-ce qui reste de lui, justement, parce qu'une Amérique divisée, quand même. Je parlais de la question raciale.
Sa personne, personne. Quelqu'un qui manifestement est à la fois intelligent, qui est sympathique au sens étymologique du terme, qui n'a pas que ses adversaires, pourtant acharnés pour certains républicains, n'ont pas réussi à déstabiliser à aucun moment, qui a tenté beaucoup de choses, qui n'a pas tout réussi. Alors, il n'a pas tout tenté. Hein. Par exemple, là, la modification de la loi sur les armes. Alors ça, c'est quelque chose qui est tellement sacro-saint aux États-Unis qu'il s'y est même pas attaqué.
Sacrilège. En réalité.
Voilà, c'est sacrilège. Bon, il l'a pas fait. Le racisme ambiant, oui, mais oui et non, parce qu'il a été élu une fois puis une deuxième fois. Donc, si vous voulez, tout ça est très contrasté sur les affaires internationales. Je pense que là, on est davantage dans une zone d'ombre parce que Obama a réellement et sincèrement, je crois, tenté avec son reset en faveur du dialogue avec la Russie.
Le monde arabe, bien sûr. Discours du Caire, alors qu'il vient d'arriver.
Mais fondamentalement, on a quand même le sentiment qu'il y a une bonne volonté, qu'il y a une vraie intelligence de la gouvernance, mais que ça a globalement échoué.
Des États-Unis qui ont perdu de leur influence, Pierre Servent.
Oui, un bilan décevant, parce qu'on attendait certainement beaucoup de lui après l'ère Bush, qui était assez catastrophique, et que ce personnage est séduisant, il est beau, il est intelligent, il dit des choses pertinentes, donc tout le monde a été attiré par lui. Bilan en politique intérieure économique relativement positif, hein, et en politique étrangère assez catastrophique pour une raison que j'avais évoquée ici dès le premier mandat. Ce personnage est trop intelligent. Le paradoxe, c'est qu'on a un Trump qui apparemment ne lit pas plus de 10 minutes un document, et de l'autre côté, vous avez un Barack Obama qui est extrêmement smart, intelligent, juriste de formation,
bien sûr.
Et donc d'une certaine façon pusillanime. Et dans toutes les crises qu'il a eu à gérer en tant que prix Nobel de la paix, il a été pris, je dirais, de travers par ces crises. Il a donné le sentiment qu'il pas de pilote dans l'avion américain, et il a libéré, enfin pas lui tout seul, mais il a contribué à ce que les forces nationalistes qui montent depuis des années se renforcent.
Avec l'arrivée
donc,
de Trump.
Voilà, et puis sur l'Israël-Palestine, etc., enfin des dossiers très très lourds, ce personnage qui aurait pu bousculer les choses, ben, ça n'a pas été fait. Manque de caractère, paradoxalement, c'est chez ce personnage superbe. Et puis son équipe, ses équipes avec un tourneveur. Je l'avais analysé dès le départ. Vous regardez les hommes politiques. Est-ce qu'ils gardent leurs équipes ou est-ce qu'ils les perdent? Très tôt, Obama a eu un turnover de ses conseillers extrêmement important. Ouais. C'est très mauvais signe.
C'est mauvais,
ça veut dire que je suis trop intelligent, je n'écoute
France,
pas les autres.
Bien sûr.
C'est pas bon.
L'après Obama, en deux mois. Alors, on en a déjà parlé souvent, hein, Donald Trump qui ne s'est jamais gêné de critiquer Pékin sur la politique monétaire, la politique militaire, en prenant au téléphone la présidente de Taïwan, en remettant en cause la politique de la Chine unique. Hein. Piqûre de rappel jeudi lors de l'audition devant le Sénat de Rex Tillerson, dont on parlait il y a un instant. Nous allons devoir envoyer un signal clair à la Chine pour lui signifier que les constructions sur les îles doivent cesser et ensuite que son accès à ces îles ne sera plus permis. Vous savez, tous ces Diaou, Senkaku, Spratley, Paracel et autres, hein. Chine versus Japon, Philippines, Vietnam. Qu'est-ce que pourraient faire les États-Unis concrètement contre Pékin, les États-Unis de Donald Trump, Pierre Servent?
Mais rien! Rien. Pourquoi? Parce que là, ce problème n'apparaît pas aujourd'hui. Ça fait des mois et des mois que vous avez des accrochages permanents entre la marine chinoise ou des pièces de défense antiaérienne sur les polders qui ont été construits sur ces immeubles, avec des avions Poséidon américains qui contestent les zones revendiquées par la Chine. Les Chinois ont capturé un drone sous-marin américain que les Américains réclament à grand prix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Américains vont entrer en guerre, ils vont frappé. Du côté de la Chine, c'est non négociable. Les Chinois, depuis des décennies, coulent des porcelaines chinoises de 4 siècles avant Jésus-Christ dans ces zones.
Pour dire c'est à nous.
Pour lancer des campagnes archéologiques, quelque chose. Donc les Chinois, c'est intangible. Et le problème du monde d'aujourd'hui, c'est que vous avez des personnages qui sont claquemurés dans leur logique. Donc je ne vois pas du tout. Alors bon, il pourrait y avoir des pressions économiques, etc. Mais la Chine est un peu comme Moscou, je dirais assez juste jusqu'au boutiste sur ces plans. Sur ces ces questions-là.
Frédéric Ancel.
Je crois que là-dessus, ce n'est pas négociable, ce qui signifie que ça peut l'être ailleurs. La Chine a démontré ces dernières années un vrai pragmatisme en matière d'affaires étrangères. Je pense notamment à la Corée du Nord. Ça peut vous étonner. Les Corées du Nord ne cessent de tenter de démontrer qu'ils ont la matière. Oui, enfin, ils ne l'ont jamais fait. La réalité, ils l'ont jamais fait. Sans l'ouverture permanente de la frontière entre la Chine et la Corée du Nord ne mange pas, ne
bien
vit
sûr,
pas.
Bien sûr.
Et donc, on est là sur, je pense, une possibilité de négocier. Je suis tout à fait d'accord sur la mer de Chine méridionale. Pour les Chinois, c'est ligne rouge. Ça signifie que dans d'autres zones du monde, ou sur d'autres thématiques, notamment économiques, je suis certain qu'il peut y avoir des accords.
Et d'ailleurs, Tillerson a tenté aussi la Chine d'être responsable, quelque part, de la montée de la Corée du Nord, notamment en matière de nucléaire. Et puis, autre pays dans la ligne de mire de Trump, le Mexique. Trump veut lui faire payer le mur, Trump veut rapatrier les usines américaines, Trump veut revenir sur l'accord de libre-échange, l'ALENA, et le président Nieto se dit prêt à des négociations d'ampleur.
Il est évident que nous avons des différends avec le prochain gouvernement des États-Unis, comme au sujet du mur que le Mexique, bien entendu, ne paiera pas. Ce que je peux vous assurer, c'est que nous allons travailler pour avoir une bonne relation avec les États-Unis et le président, une relation qui profite au Mexique et aux Mexicains.
Voilà, le président mexicain. Oui, c'est bien, Frédéric Ancel, mais comment le Mexique va pouvoir se battre? Est-ce qu'il en aura la force face aux géants américains?
Non, le Mexique seul ne peut pas se battre économiquement contre les États-Unis et ne pourrait pas se battre contre des rétorsions, contre des mesures de rétorsion américaines. Enfin, je dis rétorsion, contre des mesures américaines défavorables à l'économie mexicaine. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce discours extrêmement tempéré, modéré, prosaïque, d'ailleurs, c'est pas le premier, hein, puisqu'il y a déjà eu une rencontre il y a quelques mois de cela, témoigne de la faiblesse du Mexique par rapport aux États-Unis. Cela dit, les États-Unis dans cette affaire, c'est la faiblesse du fort. C'est-à-dire que les États-Unis ont besoin de l'immigration, d'abord du libre-échange. Je rappelle que l'ALENA, ça concerne tout de même
le Canada aussi,
le Canada, ça, et que ça rapporte beaucoup aux Américains aussi. Et que l'immigration mexicaine, en réalité, elle a globalement trouvé du travail. Et que les États-Unis sont, contrairement à ce qui se passe
en France...
Ils ont
besoin de consommateurs, ils ont besoin de travailleurs. Et s'il n'y a plus les immigrés mexicains, ou autres, enfin les
travailleurs américains. Absolument, et j'ajoute un point un petit peu brûlant, si vous le permettez. Puisque Trump considère que décidément, à peu près n'importe quel musulman peut constituer une menace pour le pays, ce qui est un scandale, mais il l'a dit et répété, et manifestement ça ne pose pas trop de problème, il lui faudra des travailleurs mexicains, qui, eux, ne sont pas dangereux, d'après lui.
Un mot, avant qu'on parle de l'Iran.
Un mot, fierté, c'est-à-dire fierté mexicaine, qui ne peut pas accepter de voir un mur construit
et en plus de payer.
Et Trump, grand orateur, en disant, non seulement je vais le construire, mais je vais le payer. C'est un peu, on construit la ligne Maginot et on dit aux Allemands, c'est vous qui paierez la ligne Maginot. Voilà, cet irrationnel des postures crée de l'incertitude dans un paysage international tendu.
Allez, à suivre, 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la radio et à la télé, la mort de l'ancien président iranien Rafsanjani, et puis Bachar al-Assad qui se dit confiant, qui assume ses faits et gestes dans les médias français. On va retrouver Frédéric Ancel et Pierre Servent, à tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et c'est toujours en vente en 2017, Géopolitique de la Nation France, signé de Frédéric Ancel et de Yves Lacoste. Frédéric Ancel qui est avec nous pour 7 jours dans le monde. Et puis le testament au lit, qu'il en reste quelques-uns, profitez-en encore ce week-end, signé de Pierre Servent. C'est son premier roman, j'ai adoré. Mais voilà, il y a de l'histoire, il y a un peu d'amour aussi, c'est très bien tout ça. Un vrai bon roman. Dans 7 jours dans le monde, on continue l'actualité internationale de la semaine. À direction Téhéran, avec une foule impressionnante à l'enterrement de l'ancien président Rafsanjani, qui a succombé le week-end dernier à une crise cardiaque à l'âge de 82 ans. Deuil national pour saluer eh bien, ce proche de l'ayatollah Khomeini, c'était son collaborateur, hein, qui avait dirigé le pays entre 89 et 97, salué notamment eh bien, par l'actuel président Rouhani.
Jusqu'au dernier moment de sa vie, il a courageusement montré le bon chemin au peuple. Avec sa façon de penser éclairée et courageuse, il a ouvert un bon chemin pour la jeunesse. Hachemi avait déjà émis plusieurs vœux pour l'honneur de ce pays, pour la gloire de notre système et pour la révolution. Nous avons tout espoir de continuer son œuvre.
Émotion du président Rouhani, et pour cause, hein, ils étaient très proches l'un et l'autre. Je lis le communiqué de l'agence de presse iranienne ISNA. Sa mort constitue une grande perte pour les modérés. Oui, c'est un peu le parrain, quelque part, du camp conservateur, du camp réformateur, Frédéric Ancel?
Oui, un parrain dont le régime n'a pas voulu. Et c'est précisément parce que Rafsanjani n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle que Rouhani a du coup... Oui, c'est ça. Sûr. Et c'était le seul des 6 candidats à être considéré effectivement comme modéré, et il l'a emporté. Et c'est très intéressant parce que la jeunesse et une grande partie de l'électorat féminin a voté pour Rouhani comme ils avaient voté à l'époque, dans les années 80, pour Rafsanjani, parce que nous avons affaire effectivement à des... Alors, à des je préfère le terme de pragmatique au terme de modéré dans une république islamique.
Bien sûr,
différent. Bon, mais voilà. Mais enfin, globalement, c'est quelqu'un qui, d'abord, qui pensait les affaires internationales sérieusement et de façon, encore une fois, je le dis, j'insiste, pragmatique, au fond, comme Rouhani le fait. Et c'est quelqu'un qui tentait d'unifier le plus possible la société iranienne à l'intérieur, sachant très bien, d'ailleurs, en bon stratège, qu'en général, les dangers viennent de l'intérieur lorsqu'on crée un État-nation. Alors ça, c'est déjà un très vieil État-nation, la Perse. Mais lorsqu'on essaie de créer un empire, et là je parle de l'empire panchiite, au-delà de l'Iran. Donc effectivement, c'était quelqu'un d'important. J'ajoute un dernier point, vous avez dit 82 ans, vous avez raison, mais dans une gérontocratie, comme l'est la République islamique d'Iran depuis Khomeini, c'est pas si vieux que ça.
Non. Ou l'Arabie Saoudite aussi, dans un autre genre.
Saoudite, alors là, oui, super gérontocratie. Ouais. Et certains se plaisaient à croire qu'aux prochaines élections, il allait pouvoir se présenter l'emporter.
Justement, quelles conséquences sur le camp modéré à quelques mois, je crois qu'on est à 4 mois d'une élection importante en Iran?
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de conséquences, parce que le camp modéré, en réalité, grâce à Rouhani et au fond, à un guide suprême, Khamenei, qui a laissé faire, d'abord qui a laissé Rouhani devenir président tout de même, on est sur un train, comme disent les anglo-saxons, sur une tendance plutôt à l'ouverture. Je dis bien plutôt à l'ouverture, à la fois sur le plan sociétal et sur le plan international, qu'on se souvienne de l'accord nucléaire iranien d'il y a un an et demi. Ouais,
exactement. Pierre Servent.
Voilà, point très important, puisque Donald Trump donne le sentiment de vouloir éventuellement remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien. Donc là, ça ferait repartir, je dirais, la Perse dans un combat entre les pragmatiques et les durs. Tout ça versus ce qui se passe en Syrie, enfin la construction de l'axe chiite, parce qu'on parle beaucoup des Russes sur la Syrie, mais les Iraniens sont là depuis le début, et il y a la volonté effectivement de reconstruire un empire perse face aux Saouds et aux Sunnites qui eux essayent de fédérer ce camp-là. Donc vraiment c'est cette dimension extrêmement frappante de nationalisme ou de nationalo-religiosité qui se mettent en place, et on parlait d'irrationalité tout à l'heure, vous avez des intérêts bien compris, analysés, mais vous avez aussi, je dirais, les passions qui sont au cœur. Et moins vous avez de personnages modérés ou pragmatiques dans le paysage, plus les passions montent et prennent de l'ampleur.
En tout cas, il y a un pays soutenu par l'Iran, vous le savez, on vous en parle tous les week-ends dans 7 jours dans le monde, c'est la Syrie de Bachar al-Assad, qui après sa victoire à Alep, enfin victoire avec les Russes, avec les Iraniens, bien sûr, se justifie, se montre confiant, opération charme, quelque part, interview donnée à plusieurs médias français, RTL, LCP et France Info.
Comment pouvez-vous libérer les civils des terroristes dans ces zones? Qu'est-ce qui est le mieux? Les laisser sous leur commandement? À leur merci, les abandonner aux mains de terroristes qui coupent des têtes, qui assassinent? Est-ce le rôle de l'État de rester les bras croisés? Non, vous devez les libérer. C'est parfois le prix à payer. Et à la fin, ces gens sont libérés des terroristes.
Voilà, il assume, Bachar al-Assad, droit dans ses bottes, comme dirait l'autre, Pierre Servent.
Oui, droit dans ses bottes, dans ses rangers, qui sont quand même pas mal tachés de sang. Quelle leçon pour nous, quelle leçon pour la diplomatie française qui, au début de la révolution syrienne, expliquait que la question n'était pas de savoir si Bachar allait quitter le pouvoir, mais quand il allait le faire. Donc là, c'est toujours cette invitation à l'humilité pour nous commentateurs. Une lecture toujours de l'histoire, des profils psychologiques, des personnages qui sont en place, de leur communauté. Les Alaouites, ce sont des résilients, ce sont les intouchables chiites et même du monde musulman, avec les fatwas du XVIIIe siècle disant « tout bon musulman doit tuer un Alaouite pour faire plaisir à Allah ». Ces gens viennent de la nuit, enfin de encore une fois, du ruisseau. Ils ont été mis en selle en partie par les Français lors de la composition de l'armée syrienne, où les militaires français leur ont, justement, par esprit de promotion, de les sortir de leur ghetto, ils leur ont dit « rentrez dans l'armée parce que c'est un lieu de prestige, d'identité ». Ils l'ont bien compris, ils ont fait un coup d'État pour prendre le pouvoir, ils ne lâcheront pas. Donc là, de ce point de vue-là, ça nous demande à nous tous, sur l'ensemble de ces pays-là, de rentrer dans les cultures, de les comprendre, d'avoir de l'humilité, et après d'essayer de faire de l'analyse. La part de l'irrationnel, de l'émotionnel, du religieux. Voilà, on peut pas faire que de l'analyse tranquillou, j'irai dans les studios à partir de nos modes de fonctionnement occidentaux.
Ouais, Frédéric Ancel, on l'entendait, et puis ce sont des longues interviews où il assume, où il se dit confiant quelque part. Hein, voilà, donc quitte à reprendre aussi eh bien, l'Est du pays. Est-ce qu'il a raison d'être aussi confiant? Parce que je le disais, victoire du Haut-Russe, mais est-ce qu'il va arriver à s'en affranchir? Ils le tiennent, hein, justement.
Ils le tiennent, mais manifestement, ça ne gêne pas beaucoup Assad, qui préférait, dans tous les cas de figure, rester au pouvoir. Alors, quel pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir important? Moins que ce qu'il aurait espéré, mais il est toujours au pouvoir. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce que, voilà, 5 ans et demi, je me trompe sur beaucoup de choses, hein, mais voilà, 5 ans et demi que je dis, que j'affirme, notamment sur vos plateaux, que Assad ne chuterait pas. Ce n'est pas Ben Ali Harpagon qui tend avec sa bonne femme et son clan, avec ses caisses de billets, se faire soigner auprès des légendaires médecins saoudiens. Enfin, il faut être sérieux. Les Alaouites, c'était, Pierre Servant l'a très bien rappelé, j'y reviens pas. La Syrie, c'est autre chose. Les Alaouites se battent à la vie, à la mort. Je les défends pas en disant ça. Mon premier article stigmatisant durement Assad, il venait d'arriver au pouvoir, date du 28 juin 2000, bien, dans Libération. Donc, Assad, on les connaît bien, on devait bien les connaître, le père et le fils, Hafez et maintenant Bachar. C'est quelqu'un qui se satisfera de n'avoir conservé que la Syrie utile, entre guillemets, les 4 villes, le littoral, on le rappelle toujours, et quitte à abandonner les zones kurdes qui de toute façon sont perdues, et l'est du pays qui est aujourd'hui pratiquement anarchique, et où encore aux mains des sunnites extrémistes. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le dernier, effectivement, beaucoup d'humilité, parce que moi je me souviens de 2 ministres des Affaires étrangères français, l'un de droite, l'un de gauche, au début du printemps arabe, ne disant pas seulement Assad doit partir, ça moralement on peut toujours le défendre, ce point de vue-là. D'ailleurs, c'était assez globalement le mien, mais il va partir sous prétexte que quelques autres dictateurs arabes venaient de partir. Et vous savez, je vais aller plus loin. C'est une espèce de vision.
Ensuite, hein, voilà.
Eh ben c'est ça. C'est une espèce de vision un peu essentialiste. Au fond, 4 dictateurs arabes sont tombés. Oh ben le 5e va suivre. Mais non. Et là, il y a eu manifestement une incompétence, notamment d'un certain nombre de conseillers et de politiques français vis-à-vis d'Assad.
Alors, nouvel ordre dans la région ou pseudo nouvel ordre dans la région avec les Turcs, les Russes, les Iraniens justement dans ce contexte syrien. Bah, peut-être à tel point que le premier ministre turc s'est rendu à Bagdad et Erbil en Irak cette semaine. Retour à la normale entre les deux pays, Frédéric. Est-ce que ça va se faire aussi sur le dos des Kurdes, cette histoire?
Alors, ce que vous appelez les deux pays, la Turquie est un pays encore unifié aujourd'hui, oui. mais l'Irak.
Ah, bah est-ce oui, que c'est un État ah, pour l'instant, il y a toujours officiellement un drapeau.
Vous avez raison, officiellement, bien sûr. Mais c'est intéressant que vous ayez rappelé qu'il est allé à Bagdad
et à Erbil, capitale du Kurdistan irakien.
Et le Kurdistan irakien.
Qui est autonome depuis, quasi indépendant.
De facto indépendant depuis 2003-2004. Et qui s'en sort d'ailleurs très bien, globalement, y compris du point de vue des droits de l'homme et des droits de la femme, entre parenthèses. Donc, Bagdad et Erbil, pourquoi? Parce que l'Irak unifié de l'époque de Saddam, c'est tant qu'il n'ait vraiment jamais été unifié sur le terrain, aujourd'hui n'existe plus. Il y a même, d'ailleurs, au fond, 3 Iraks, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Al-Qaïda, pour l'instant, non seulement Al-Qaïda, mais Daesh, sont toujours très présents. Alors, normalisation, oui, et en tout cas, la Turquie a besoin que de l'autre côté de la frontière, on tienne cette frontière précisément. Ça a été le cas avec le Kurdistan irakien. Autant Erdogan lutte avec une férocité sans égale contre des indépendantistes ou des séparatistes kurdes de l'intérieur de son pays, autant il a lutté contre les Kurdes en Syrie, autant en Irak il n'y touche pas. Il ne peut pas le faire. Je rappelle qu'il y a une longue frontière de plusieurs centaines de kilomètres et montagneuse, très difficile à tenir, entre le Kurdistan irakien et la Turquie. Donc là, il est obligé d'en passer par là. J'ajoute que grâce au pétrole kurde qui a besoin de sortir, hein, il n'y a pas d'accès à la mer chez les Kurdes, eh bien, la Turquie devient un hub pétrolier encore plus important que ce qui n'était jusqu'à présent. Et enfin, Bagdad, je vais vous dire franchement, moi je ne crois pas beaucoup à la pérennité d'une puissance irakienne autour de Bagdad, simplement parce que c'est essentiellement des chiites qui sont concernés. Et regardez l'armée qui tente de reprendre,
Mossoul, bien sûr,
stressée depuis d'ailleurs des années. Mossoul, c'est une armée très majoritairement chiite, et c'est à ce titre-là...
Et une armée un peu affaiblie maintenant.
Et fatiguée, bien sûr. Et c'est à ce titre-là que, là aussi, il y a une nécessité de dialoguer pour la Turquie.
Alors justement, tiens, Mossoul, Pierre Servant, le stratège que vous êtes, oui ou non, y a-t-il du mieux pour les forces spéciales irakiennes qui ont réussi à arriver jusqu'aux rives du Tigre à Mossoul? Et on le sait que depuis 2 mois, c'est extrêmement difficile parce que l'État islamique utilise des véhicules piégés, des snipers, et puis il y a beaucoup de civils, bien entendu, on fait pas n'importe quoi quand il y a autant de civils, hein.
Oui, effectivement, donc les combats ont été très difficiles. Le point positif, c'est l'arrivée sur le Tigre. Alors maintenant, après, il faut attaquer le morceau le plus dur à l'ouest, où il y a une concentration de forces ennemies. Il faut mettre en place des ponts que l'officier du génie connaît bien, parce que les ponts ont été détruits. Donc il faut mettre des ponts, des bacs portières, des ponts de fortune pour arriver à faire passer les véhicules. Un enseignement sur le début de cette guerre, de cette récupération de Mossoul, démarrée le 17 octobre, c'est que au bout d'un mois, un peu plus d'un mois et demi, la coalition avait déjà perdu, blessé ou tué plus de 2000 hommes. Et notamment, effectivement, par ce que vous avez dit, c'est-à-dire ces voitures kamikazes, très souvent avec des enfants enchaînés dans la voiture, arrivant près des checkpoints en disant on est en train de fuir,
Mossoul, etc. Vraiment,
et déclenchés à distance, c'est-à-dire eux-mêmes n'ayant pas ça. Donc énormément de pertes de ce côté. Il y a un élément que j'ai eu de plusieurs côtés, de plusieurs sources solides, c'est que la coalition qui rentre ne voit pas de fuite de population à proportion de ce qu'ils attendaient. Ce qui voudrait dire que il y a encore Nolens-Volens, mais plutôt Volens, plutôt volontairement non. Une partie de la population qui reste attachée au régime de Daesh et qui, malgré la terreur de Daesh, conserve un très mauvais souvenir des chiites et reste dans cette opposition. Donc là, c'est la vraie difficulté. S'il n'y a pas cette désolidarisation, s'ils restent sur place, les combats. Voilà. Alors donc, mes sources me disent, on va y arriver en 2017. Quand en 2017 That's the question.
L'année ne fait que commencer. L'État islamique, est-ce lui qui est derrière l'attentat suicide au camion mené par un Palestinien à Jérusalem dimanche dernier, tuant 4 soldats? Benjamin Netanyahou, il y voit en tout cas la patte de l'organisation terroriste.
Nous connaissons l'identité du terroriste. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'un sympathisant de Daesh. Il y a là une série d'attentats qui ont un lien, que ce soit ceux qui se sont produits en France, à Berlin ou à Jérusalem, et nous luttons contre ce fléau.
Bon alors, pas de précision du Premier ministre israélien, mais vrai ou faux, je ne sais pas. C'est quoi la présence de l'État islamique en Israël? Est-ce qu'il y a des liens entre les Palestiniens et les terroristes de Daesh? Frédéric Ancel.
Dans la bande de Gaza, manifestement, oui, il y en a. En tout cas, une tentative de pénétration. D'accord. Et on le sait notamment par la frayeur des cadres du Hamas eux-mêmes, qui sont concurrencés sur leur propre terrain.
Ils ont trouvé plus méchants qu'eux, quoi.
Plus méchants qu'eux, pas à leurs yeux, évidemment. Mais en tout cas, oui, à nos yeux, bien sûr, plus méchants, très déterminés. Ouais. Et d'un point de vue religieux, j'ose pas employer le mot de spiritualité, d'un point de vue religieux, concurrents, parce que ce sont évidemment aussi des sunnites, mais de type, pour le coup, djihadistes.
Et ça, les services secrets israéliens, ils arrivent à travailler vraiment, à les identifier,
ils ne travaillent pas avec le Hamas. En revanche, les services de renseignement israéliens, travaillent avec l'autorité palestinienne. Oui. Et là aussi, frayeur. Parce que l'autorité palestinienne.
Parce qu'il y en a aussi en Cisjordanie,
C'est ça. Pour la première fois, il semble que là, en effet.
Que le gars venait de Jérusalem-Est,
Il est de Jérusalem-Est. Alors ensuite, le problème est de savoir quelle est la part dans quelle est la variable de prise de décision de commettre cet attentat chez, cet individu. Est-ce que c'était par nationalisme, on peut dire ça comme ça, palestinien? Est-ce que c'était par adhésion ou allégeance à l'État islamique ou de façon plus générale à l'islamisme radical? Alors ça, je veux dire, c'est extrêmement compliqué à déterminer.
Bon, à suivre, le sommet France-Afrique, Afrique-France, sommet Afrique-France de Bamako, le dernier de François Hollande. Que reste-t-il de la France-Afrique avec laquelle François Hollande, voulait rompre? On va retrouver Frédéric Ancel et Pierre Servent.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et à peine 10 minutes, même pas 10 minutes, pour terminer 7 jours dans le monde, sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec le dernier sommet Afrique-France de François Hollande ce week-end au Mali. Bamako, là justement où il avait été salué en héros il y a 4 ans, donc peu de temps après le déclenchement de l'opération Serval, vous en souvenez, le plus beau jour de sa vie politique, voilà ce qu'il avait dit devant une foule qu'il acclamait à l'époque, François Hollande. Pierre Servent, le Mali, il a retrouvé la sécurité, la paix?
Alors, je dirais Mali-Niger, je dirais même Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, ce qu'on appelle le G5 Sahel, qui a été organisé par la France, il y a infiniment de mieux, grâce à l'opération Serval et Barkhane par la suite.
Ces 5 pays,
très clairement, les groupes djihadistes ont du mal à se reconfigurer, à se restructurer, à reconstruire un donjon. Est-ce que la menace a disparu? Non. Rappelez-vous les attentats dans les grands hôtels, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali. Mali également. C'est-à-dire que ça reste encore endémique et ça correspond à ce que des militaires français m'avaient dit à l'époque, c'est ce qu'ils appellent l'effet Mercure. C'est-à-dire que vous cassez le thermomètre en le faisant tomber au sol, donc le gros de la boule explose et vous avez une myriade. L'image n'est pas complètement bonne parce qu'une partie des groupes ont vraiment été détruits et n'arrivent pas à se reconfigurer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la part du dispositif Barkhane, des forces spéciales...
4000 soldats français encore sur place.
Voilà. Ouais. Les forces spéciales françaises qui font un énorme boulot parce qu'ils ont la même plasticité, mobilité, adaptabilité au mode de fonctionnement des groupes djihadistes en face qui sont extrêmement mobiles et qui, contrairement à toutes les sottises, enfin à quelques sottises que je vois apparaître ici ou là, ne sont en rien des tueurs de la République. Ils n'assassinent pas les gens qu'ils ont en face d'eux, ils les combattent au combat, et il se trouve qu'en face, la plupart du temps, les gens se font sauter ou viennent mourir plutôt que de se rendre. Ça n'a rien à voir...
Il n'y a pas de prisonniers au Mali. Hein.
Il y en a quelques-uns, mais c'est rare, parce qu'ils ne veulent pas. Et ça n'a rien à voir avec des opérations homo
dont le président a parlé maladroitement. Vous savez, avec les assassinats de terroristes, que ce soit au Mali ou en Syrie, Irak.
Et petite information, les Allemands vont monter en puissance pour monter jusqu'à 1000 hommes au sein de la MINUSMA. C'est un test très important pour l'Allemagne. Il faut regarder comment ça va se passer pour la suite. Et ça s'inscrit dans quelque chose que je vous avais dit ici il y a quelque temps, à savoir cette volonté chez certains dirigeants allemands de ne plus être un nain militaire et diplomatique, de remonter en puissance et de se retrouver peut-être à terme membre permanent du Conseil de sécurité à la place de la France.
À propos de la MINUSMA, à propos des troupes africaines, où est-ce qu'on en est de la formation des soldats africains qui permettraient peut-être à terme d'alléger le contingent français?
Alors, ça avance de façon positive. C'est fait par l'Union européenne, donc c'est un élément positif, mais en fait, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse recommencer. Il faut non seulement former des nouveaux contingents, mais il faut continuer à faire du mentoring, du soutien pour ceux qui sont sortis de ces formations. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent les encadrer. C'est assez compliqué. Vous avez vu, alors ça concerne pas la MINUSMA, mais par exemple en Côte d'Ivoire, vous avez des révoltes de soldats qui ne sont pas soldés, etc. Voilà. Donc c'est un travail sans cesse. Donc c'est pour ça que la France est là-bas, je l'avais dit, pour très longtemps, parce que vous avez essayé
dans l'opération Barkhane, elle va être là longtemps.
Barkhane, absolument. Et puis, il faut bien voir...
Et puis les bases militaires africaines,
le sud de la Libye.
Dakar, Abidjan, Libreville, toujours là, bien en place. Hein.
Ouais. Et le sud de la Libye, qui reste un foyer infectieux qui descend sur le Niger progressivement en fonction de ce qui se passe sur la Libye. Ça fait quelque temps qu'on ne parle pas de la Libye, il faudra qu'on refasse une émission, parce que je peux vous assurer qu'il se passe beaucoup de choses en Libye. Donc voilà, donc positif. Donc France, pour François Hollande, c'est une des décisions courageuse, intelligente et rapide qui a été faite. On peut se dire, mais est-ce qu'ils vont venir pour un président déchu, entre guillemets? Ils viennent parce qu'ils sont tous extrêmement reconnaissants à la France, parce qu'ils savaient que si les djihadistes n'avaient pas été arrêtés en janvier 2013, derrière, c'est l'ensemble de la zone sahélo-saharienne qui explosait.
Frédéric Ancel, on a entendu Pierre Servent tout de suite. Qu'en est-il au bout de 5 ans de président Hollande? Alors, je ne sais pas si c'est pas dans moi président, mais enfin qu'il aurait pu le dire aussi. Il avait promis de rompre avec la France-Afrique à cause de la lutte contre le terrorisme. Il a dû fermer les yeux sur certaines pratiques.
La France-Afrique, d'abord, il faut le définir. En quelques secondes, c'était quelque chose qui était très dévalorisant. La France-Afrique, ça signifiait, lorsqu'on en parlait encore ces dernières années, un petit peu moins maintenant, mais ces dernières années, c'était au fond cette espèce de politique un peu néo-paternaliste, voire néo-coloniale, de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies. Mais pardon, petite expérience personnelle, je suis allé dans la délégation de Jean-Yves Le Drian, comme l'an dernier, au Forum Paix et Sécurité de Dakar,
au mois de décembre.
Sur le terrorisme, absolument. Et vous rencontrez tout ce qui se fait de très important en Afrique de l'Ouest et en Afrique sahélienne, je peux vous garantir que ces gens-là, chefs d'État, chefs de gouvernement, chefs d'État-major, chefs de la diplomatie, ne voient pas la France comme une puissance intrusive, néocoloniale, ou comme une espèce de France-Afrique globale.
Donc c'est fini.
En tout cas, l'essentiel des pratiques qui étaient vraiment paternalistes des années 60, 70, écoutez, d'abord ça date, d'une part. D'autre part, on est dans le personnel politique français, les générations sont passées et on n'est plus dans cet esprit-là. Ensuite, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de mener une politique qui serait une politique, encore une fois, extrêmement plus que suggestive, imposée à nos partenaires africains. Et enfin, dernier point, on tente de créer une vraie alliance en Afrique et ailleurs contre le fléau commun. Et le fléau commun, et à Dakar, ils vous le disent, c'est l'islamisme radical. Je précise pour vos téléspectateurs, vos auditeurs, mais ils le savent très bien, qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique sahélienne, on est quasi exclusivement musulmans, croyants, pratiquants. Ouais. Et ces gens-là disent à la délégation française dont j'étais, aidez-nous. Mais vous vous rendez compte, mais aidez-nous.
Protégez-nous.
Vous, malheureusement, vous avez perdu des gens, vous avez subi des attentats, mais nous, on risque de voir notre civilisation s'effondrer.
Je pensais continuer peut-être à fermer les yeux devant certaines pratiques de mauvaise gouvernance. Monsieur Idriss Déby, président du Tchad, à la tête d'une grande armée, hein, une armée assez puissante. Bon, il est au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle. Il se maintient dans les raisons que l'on peut imaginer. Denis Sassou Nguesso au Congo, et puis on peut citer plein d'autres exemples.
Et en même temps, regardez à quel point la justice française ne plaisante pas ou ne plaisante plus
avec l'affaire des biens maritimes, bien sûr.
Après, évidemment, on va dire, oui, mais attention, la justice est indépendante du pouvoir exécutif français. Voilà. Mais donc, vous voyez, je dirais
avec
qu'on est vraiment...
le président de la Guinée équatoriale qui, au mois de juin, va comparaître, justement, puisque son procès a été décalé de quelques mois, donc au mois de juin, pour cette affaire, pour tous ces appartements, avenue Foch, les voitures et tout.
Et c'est pas rien. Et d'un mot, pour ceux qui se souviennent de l'empereur Bokassa Ier, si vous voulez, non, aujourd'hui ça fait sourire, mais il y a 40, il y a 50 ans, on n'était absolument pas dans cette situation. Donc il y a réellement un mieux.
Il y a du mieux.
Et dans le respect, encore une fois, des deux grands partenaires, la France et ses amis africains.
C'est fini pour 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, professeur de relations internationales à Paris Business School, à Sciences Po Paris, auteur avec Yves Lacoste de Géopolitique de la Nation France. Et puis Pierre Servant avec nous, romancier, Le Testament Holic, spécialiste des questions de défense. J'ai hâte de les retrouver. Tiens, notez, la semaine prochaine, il y aura une émission spéciale pour la passation de pouvoir Trump-Obama sur BFM Business à partir de 18h. Et puis on y reviendra, bien entendu, le surlendemain, dans 7 jours dans le monde, dans la prochaine édition.
BFM Business, 7 jours dans le monde.